One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Parce que c'est compliqué l'écologie en fait. Rien que là sur le pitch du podcast, on a réfléchi mais pendant des heures, comment est-ce qu'on pitch un podcast qui parle de tonnes de CO2, de COP21, d'accord de Paris, enfin, sans être chiant.
De toute façon, c'est un truc un peu particulier parce que à la fois je suis la productrice de Lucas, je suis la copine de Lucas, je suis un personnage du podcast, donc il y a un espèce de gloubi-boulga un peu bizarre.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération
podcast.
Génération.
Génération podcast.
Podcast.
Génération podcast.
Generation podcast.
Salut, salut, vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast, un des podcasts incontournables sur le monde du podcast, et je vous en remercie. Moi, c'est Anne Fleur, et aujourd'hui, je reçois Lucas Caltritti et Mathilde Mélin pour parler de leur podcast Super Green Me. Lucas fait des podcasts depuis qu'il est sorti du CFJ, une école de journalisme en 2018. Il est passé par Le Figaro, chez France Culture, RMC et Bababam. Il est journaliste producteur de podcasts. Dans Super Green Me, on suit sa transition écologique sur une période annoncée de 6 mois dans laquelle il cherche à vivre selon l'accord de Paris. Un défi outre important qui s'avère bien plus compliqué que prévu dans bien des domaines, comme le couple, la famille, je pense au dîner de Noël, au départ en vacances, au choix d'appartement, bref. Ce podcast, Lucas l'a donc sorti en tant qu'indépendant et il est produit par une certaine Mathilde Mélin. Mathilde est journaliste et curatrice extraordinaire chez Slate.fr, spécialisée dans les podcasts donc. D'ailleurs, Mathilde, ce n'est pas sa première fois à mon micro puisque vous l'avez déjà entendu se raconter podcastiquement, si je puis dire, il y a de ça un an dans Génération Podcast. Mathilde, Lucas, bienvenue à tous les deux dans Génération Podcast.
Merci.
Merci.
Ma première question porte sur l'origine du projet. Lucas, il ne s'agit pas de ton tout premier podcast dans le domaine de l'écologie, puisque dès 2020, tu étais à l'origine de Y'a pas le feu au lac, un podcast sur l'écologie produit chez Ouest France, sur un format totalement différent. Qu'est-ce qui est différent ici et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette fois-ci tu t'es lancé en tant que podcasteur indépendant ?
Tout est différent, absolument tout est différent. C'est vrai que les deux parlent d'écologie, donc ça peut paraître bizarre de dire ça. Mais franchement, il n'y a quasiment rien parce que Y'a le feu au lac pour Ouest France, c'était quelque chose de très journalistique. Je l'ai fait sans avoir aucune conscience écologique.
Madame, je me permets de vous contacter car je réalise un podcast sur l'impact du numérique sur l'environnement.
Bonjour,
et merci beaucoup de votre réponse.
Oui, c'est bien
parfait.
Ça.
Seriez-vous disponible jeudi après-midi pour l'interview ?
Bien à vous, Lucas Caltritti.
Pour préparer ce numéro 0, j'ai envoyé 8 mails. J'en ai reçu 5 et ils sont encore tous dans ma boîte de réception. Au total, j'en ai 623 et il y en a aussi 19 dans ma corbeille. Ça commence à faire beaucoup et je culpabilise. Généralement, j'essaye de faire attention, de supprimer les messages qui ne me servent à rien. Ça fait propre, je suis un petit peu maniaque, et puis c'est écolo.
Le Figaro, 16 mai 2019. Un mail est aussi énergivore qu'une ampoule allumée pendant une heure. RMC, 2 juin 2018. Vider votre boîte mail peut sauver la planète.
C'est irréfutable, nos mails polluent. Ils sont stockés dans des centres de données, des data centers. Ces lieux tournent en permanence, ils ne sont jamais éteints. Du coup, eh bien, ils chauffent beaucoup et il faut les refroidir. Bref, ils consomment énormément d'électricité. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça paraît peu, certes, mais cette empreinte pourrait doubler d'ici 2025 à cause de nos usages qui ne cessent d'augmenter.
Je l'ai fait parce que je m'emmerdais un petit peu pendant le confinement. Et là, Super Green Me, c'est une démarche pas journalistique du tout, qui est très intime, qui est très personnelle et que je fais justement parce que j'ai de plus en plus de valeurs et de plus en plus de convictions écologiques. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas l'impression en fait, d'avoir fait deux fois le même podcast, et c'est pour ça aussi que les deux sont produits de façon totalement différente. Et voilà, il y a ce là, Super Green Me qui est fait en indépendant, parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu le voir, le concevoir en tout cas que en indépendant, celui-ci. Il était tellement intime, tellement personnel. tellement difficile à monétiser aussi et à vendre, parce qu'en fait, quand tu fais un podcast comme ça, il y a des conflits d'intérêts absolument partout, il y a du risque de greenwashing absolument partout. Donc là, en le faisant en fait en indé, on s'évite tous ces écueils et tous ces problèmes-là.
Super Green Me est en fait le tout premier véritable podcast indépendant de Lucas. Je dis véritable avec tous les guillemets qu'il faut, puisque pendant ses études, Lucas, avec ses potes, avait lancé un podcast sur le cyclisme. Un podcast qui n'a vu le jour que le temps de quelques épisodes.
Là, c'était vraiment le cliché du podcast indé. On avait fait ça entre potes, sur une idée, je pense, qu'on a dû avoir, qu'on était un peu bourrés. Et on l'a tenu sur 4 ou 5 épisodes. Enfin voilà, vraiment, c'est le cliché du podcast indé.
Ce podcast, Super Green Me, ma transition écologique, vous l'avez imaginé sur, je ne sais pas si on peut parler de modèle, mais en tout cas, vous avez été inspiré par Super Size Me. Super Size Me qui est un documentaire vidéo cette fois-ci, avec une démarche très très différente, puisque c'est l'histoire d'un mec qui décide d'aller manger à McDo tous les jours et qui nous raconte ce que ça lui fait. Alors, cette différence entre l'audio et la vidéo, j'aimerais bien qu'on la creuse un petit peu. D'ailleurs, Lucas, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que même si le gros de ta carrière s'est fait dans le son, dans l'audio, tu avais en fait commencé par tes premières amours, qui étaient la vidéo.
Je voulais faire de la vidéo, à la base. Je voulais faire de la télé quand je suis rentré...
En école ?
Ouais, quand je suis rentré en école et mes premières expériences pro, j'ai essayé de les tourner effectivement vers l'image. Mes tout premiers salaires de journaliste, ça a été en vidéo au Figaro. Mais après, je suis très très vite allé vers le son et j'y suis resté pour ne plus en sortir, quoi.
Et est-ce que tu saurais nous dire justement qu'est-ce qui t'a particulièrement happé, attiré dans le monde du son ?
Franchement, je sais pas trop. Mais je me souviens très très bien, la première initiation radio que j'ai faite à l'école... j'y suis allé en traînant un peu des pieds en disant de toute façon mais j'en ai rien à foutre, c'est de la radio, je m'en tape. Et en fait je suis resté con parce que ce que j'ai fait était absolument nul, mais ça m'a énormément plu. Déjà à faire, ça m'a beaucoup beaucoup plu, et en fait après je me suis aussi rendu compte que sans forcément faire gaffe, j'avais peut-être une certaine culture audio. Dans ma famille on écoutait beaucoup la radio. Quand j'étais au collège, j'écoutais Le Donjon de Noël Buck, etc. Et après, j'ai pris aussi quelques petites claques. On m'a fait découvrir Les Braqueurs d'Arte Radio. J'ai écouté Ma Fille Sous Influence. Et en fait, voilà, j'y suis rentré, j'ai mis un doigt, puis un deuxième doigt, puis un pied, puis c'était terminé, merci, bonsoir. Et j'y suis resté, quoi.
Est-ce qu'il a toujours été évident que Super Green Me serait un podcast audio, donc uniquement, et non vidéo ?
Le média podcast... pour Super Green Me était super important. Ça n'aurait pas pu être une chaîne YouTube, par exemple.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, justement, dans cette recherche de l'intime et de la sincérité et de la spontanéité, ça, c'était possible, à mon sens, que grâce au micro et que grâce à l'audio. Parce qu'en fait, c'est extrêmement discret. Quand il y a une caméra, on pense à quoi je ressemble et machin, et c'est imposant. Le micro, on l'oublie très, très vite. Et là, typiquement, tu reparlais de l'épisode de Noël. Un petit micro au milieu d'un repas de Noël de famille, c'est super discret, il l'oublie extrêmement rapidement. Il y a mon cousin, au tout début, qui refait deux fois la même question en rigolant, et alors après, c'est fini. Ils discutent et plus personne ne peut les arrêter.
Et peut-être que pour l'auditeur aussi, c'est intéressant en fait, de ne pas mettre de visage sur vous et du coup, de peut-être encore plus s'identifier à ce que vous vivez.
Toi, du coup, ton visage, c'est la jaquette, mais...
Ouais, mais c'est un dessin.
Oui, oui, mais non, mais effectivement, t'as raison. J'avais pas réfléchi à ça sur l'identification, et effectivement, oui, oui. Il y a effectivement ce côté-là de pouvoir glaner des témoignages que j'aurais pas pu glaner avec l'image, et en même temps, oui, sur l'identification vis-à-vis des auditeurs et des auditrices, effectivement, c'est assez juste. Du coup, c'est un petit peu neutre, même si j'ai une maman avec un petit accent du sud. Et donc voilà, mais mais effectivement, c'était vraiment très important pour moi de le faire en son.
C'était une évidence, quoi.
C'était une évidence, ou en tout cas, si j'avais voulu le faire sur un autre média, ça aurait pas du tout ressemblé à ça. Ça aurait pas été possible. Pour avoir ce résultat-là, il fallait impérativement que ce soit un podcast.
Mathilde et Lucas vivent donc en couple et travaillent ensemble sur le projet de Super Green Me. Le média podcast, comme beaucoup de métiers passion, finalement, c'est quelque chose dont il n'est pas toujours facile de décrocher. Quelque chose qu'on fait toute la journée, qu'on consomme pour le plaisir, par exemple dans le métro, en faisant son footing ou en allant faire ses courses. Et que, en plus, Mathilde et Lucas écoutent aussi, parfois à deux. Comment est-ce que cette association entre cette curatrice experte de podcast et ce producteur journaliste de podcast s'est faite professionnellement ? Est-ce que Mathilde a été impliquée dès le début ? Est-ce que cette association a finalement été évidente ou est-ce qu'elle s'est faite organiquement, progressivement ?
Non, c'est pas arrivé naturellement. En tout cas, c'est pas arrivé spontanément. Parce que, en fait, c'est Mathilde qui... un soir après avoir fait Yalfo Lac et quand je lui disais que ben j'avais de plus en plus tout ça en tête qui m'a en fait soufflé l'idée, qui m'a dit raconte-nous ça en fait, à quoi ça ressemble d'être écolo, t'en parles, tu le fais pas, fais-le et voyons. Donc en fait c'est parti, le tout début du cheminement c'est elle. Ensuite moi j'ai vraiment j'ai travaillé là-dessus, j'ai trouvé le nom, j'ai essayé de réfléchir un peu aux formes, etc. Je me suis lancé.
Il y a eu une période assez longue entre le moment où on a eu l'idée et le moment où tu as commencé à faire l'expérience. Il y a eu quoi, presque un an ?
Il y a eu presque un an, mais parce que effectivement, en fait, au début, il y avait j'avais un travail qui me prenait beaucoup de temps à côté. C'était compliqué parce que au début, j'avais envie aussi de gagner ma vie avec, donc de pas forcément le sortir en indépendant. Enfin bon, voilà, il y a des questionnements qui se sont faits, mais pour le mieux, parce qu'en fait, ça m'a permis aussi pendant un an de vraiment bien mûrir ce projet, de vraiment faire ce que je voulais avec. Et puis parce qu'aussi, c'est lourd de se lancer un tel défi, surtout quand on ne sait pas où on va. On se dit, 6 mois pour être vraiment écolo, donc 6 mois pour baisser son empreinte carbone à 2 tonnes d'équivalent CO2, comme l'entend l'accord de Paris sur le climat à horizon 2050. C'est potentiellement compliqué. Je ne vais pas spoiler les auditeurs et les auditrices si j'y arrive ou pas, mais ça ne se fait pas sans rien. Donc ça fait aussi un peu peur et il y a de l'appréhension, donc ça met du temps à se déclencher. Je l'ai lancé seul. Et en fait, vu que c'est un podcast indépendant, ça prend beaucoup de temps et on est tout seul. Et en fait, il y a un moment donné où, avec mon taf, plus ça... je m'en sortais plus et j'arrivais pas à m'astreindre à un rythme forcément très régulier. J'arrivais pas vraiment à m'organiser, c'était compliqué. Et c'est ce qui faisait défaut, c'était essentiellement la prod. Parce que l'expérience, je continuais à la vivre, je continuais à pas manger de viande, je continuais à faire gaffe, etc. Mais par contre, du point de vue podcast, là c'était compliqué à suivre. Et du coup, vu que Mathilde partage ma vie, on échange là-dessus. Et elle s'est rendue compte que j'y arrivais pas, et donc c'est là qu'elle est rentrée en piste, quoi.
Oh mon cœur, comment
ça va? Ça va, maman?
Ouais, ça va.
Je t'appelle pour t'annoncer un truc un peu spécial. Est-ce que tu te souviens du documentaire Super Size Me? Tu sais, c'est le mec qui bouffait McDo matin, midi et soir.
Tout à fait, tout à fait.
Du coup, moi, je me lance dans un nouveau podcast qui va s'appeler Super Green Me. Et au lieu de manger McDo matin, midi et soir, en fait, je vais essayer de vivre de façon très écolo.
D'accord. À partir de quand?
À partir de maintenant.
Ah putain, toi, t'aurais pu attendre les fêtes, non?
Non, mais j'ai commencé il y a quelques temps déjà, il y a 2-3 semaines.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé l'expérience. Donc, ça faisait presque un an qu'on avait eu l'idée. Un soir, il est rentré à la maison en disant « ça y est, ça me saoule, je vais le faire, je me lance ». Donc, ça a d'abord eu un impact sur le couple où moi, je lui ai dit « attends, comment ça ?» Enfin, tout, très concrètement, j'ai fait les courses, il y a du poulet dans le frigo, quoi. Donc, comment ça, tu te lances dans quelques jours ? Le premier mois et demi d'expérience, je pense, j'étais pas du tout à la prod, tu faisais tout seul. C'est un mois et demi, deux mois. Et au bout de 2 mois, en effet, il a vu qu'il manquait d'un cadre et tout. Et moi, en fait, passé le premier mois de merde, mon mec est en train de changer, j'ai commencé à lui dire quand on allait en soirée, prends ton Zoom, je suis sûre qu'il va y avoir des trucs à enregistrer, etc. Et donc, en fait, un peu naturellement, même dans notre vie à nous, j'ai commencé à lui dire, tiens, ça serait bien que tu enregistres ça. Il avait telle idée d'épisode, on en discutait ensemble. Et en fait, je lui ai dit, bon, écoute, ce projet, tu as choisi de le faire. Moi, évidemment, je ne pourrais pas en parler dans le cadre de mon travail parce qu'il y a un énorme conflit d'intérêts. Donc, quitte à pas pouvoir en parler en tant que journaliste podcast, autant m'investir dans le projet et te filer un coup de main. Et comme ça, on sera deux. ça sera plus simple de diviser aussi un petit peu la charge de travail, même s'il y a toute une partie du travail que seul Lucas peut faire. Il y a plein de trucs sur lesquels moi, je peux prendre le relais, quoi.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ce que... Donc forcément, l'expérience, c'est toi, Lucas, qui la vis en tout cas à la première personne. Le podcast, c'est quoi? C'est un mélange de journal de transition écologique. Mais c'est y a une énorme variété en fait, de formats, finalement. Il y a... Il y a des interviews, enfin des micro-interviews, des discussions à deux. On nous embarque même au fameux dîner Noël. Je fais que de le mentionner, je suis désolée. On a des réflexions solo aussi, bien entendu. Alors le format, la durée en tout cas, elle est à peu près la même partout, entre 10 et 20 minutes environ. Est-ce que, en tout cas, vous pouvez m'expliquer du coup votre démarche? Et puis bah, peut-être... Enfin, je serais intéressée parce qu'il y a vivre l'expérience, puis après, bah, comment est-ce qu'on va la retranscrire? Quelles sont les contributions de chacun là-dessus?
Sur la durée, je voulais un truc que j'écoute moins, déjà, premièrement, et j'écoute pas des trucs longs. Donc, j'exclus déjà de base les trucs longs.
Par long, tu veux dire quoi? Un truc de 3 heures ou un truc de 3 quarts d'heure? Parce qu'il y a plein de formats, finalement.
Alors, les trucs de 3 heures, effectivement, je les exclus. Les trucs d'une heure et demie, je les exclus. Et bon, voilà, jusqu'à une quarantaine de minutes, je peux tolérer. Mais enfin, voilà, je voulais quelque chose d'assez court, donc par ma consommation, mais aussi parce que je trouvais que ça se prêtait bien à cet exercice du carnet de bord. Donc, je voulais un truc qui soit hebdo, qui ait une grande récurrence. Donc, il fallait pas faire quelque chose de, voilà, de même d'une demi-heure ou 40 minutes, ça aurait été trop long. Et après, un troisième point qui était que j'ai pas le temps. En fait, de faire un épisode par semaine de 45 minutes, c'est pas possible. Ça demande beaucoup de travail. Les gens qui l'écoutent ne se rendent pas forcément compte. Mais voilà, toi, quand tu dérushes les interviews, que tu les montes, etc., il y a beaucoup de travail. Et moi, comme tu l'as dit, il y a une grande diversité de formats au sein même du podcast. Il y a des interviews, il y a effectivement du carnet de bord simple, mais il y a aussi du reportage, pas mal de reportages. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'il y a des ambiances, parce qu'il faut mixer, il faut faire beaucoup de montage, parce qu'en fait, on a des rushs. Là, le repas de Noël, c'est un rush d'une heure et demie pour faire un épisode de 10 minutes. Donc, y a 1h20 qui passe à la trappe, mais il faut quand même l'écouter plusieurs fois. Donc, voilà pourquoi j'ai fait des épisodes relativement courts. Et pourquoi la diversité de formats? Je ne sais pas vraiment, je trouve que ça s'est fait en fait de façon assez naturelle. Parce qu'en fait, effectivement... J'ai enregistré et j'ai diffusé ensuite, mais ensuite longtemps après. C'est-à-dire que vraiment, il y a un grand temps de latence. Là, on enregistre à la mi-août et je crois que les épisodes qui sont en train d'être... Ouais, voilà, on doit être en janvier-février sur l'expérience. Et du coup, en fait, j'ai eu le temps aussi de digérer un petit peu cette expérience, de digérer ce qui s'était passé. Et... Du coup, voilà, naturellement, en fait, ces formats un peu hybrides se sont faits. Moi, je trouve ça bien parce que, d'un point de vue très égoïste, moi, je m'ennuie pas quand je le travaille. J'ai pas que le même format, j'ai pas que des interviews, ou que du récit, ou que du reportage, etc. Je trouve que ça dynamise aussi un petit peu le flux, je trouve ça sympa. On a une petite surprise, en fait, le mercredi, quand on va cliquer sur l'épisode, on sait pas trop pourquoi. Et ouais, parce qu'en fait, je trouve que ça reflète, en fait, bien ma transition. Je voulais pas m'imposer quelque chose, je voulais que ce soit le plus naturel possible, je voulais que ce soit un carnet de bord intime, sincère et personnel, et donc du coup, bah, notre vie, elle ressemble, enfin, chaque jour de notre vie est un petit peu différent, et donc c'est le cas dans les épisodes.
Bah, sur les formats aussi, en fait, quand on a commencé, qu'on a eu l'idée au tout début, qu'on y a réfléchi, qu'on a tout de suite pensé à Super Size Me comme référence, avec un truc très incarné, On a parlé du type de podcast qu'on écoutait déjà et de ce qu'on n'écoutait pas aussi, c'est-à-dire le type de podcast qu'on ne trouvait pas à écouter, notamment sur l'écologie. Il se trouve que moi, dans mon travail, j'écoute entre 20 et 30 heures de podcast par semaine depuis 3 ans, donc j'en ai écouté beaucoup. Et je vois aussi les trous dans la raquette. Je vois là où il y a des sujets qui sont moins traités ou alors toujours traités un peu de la même manière. Et c'est vrai que les podcasts écologie, au moment où on a eu l'idée, il y a 1 an et demi, j'avais le sentiment que c'était que des podcasts d'interview d'experts de l'écologie qui s'adressaient à des gens qui étaient déjà eux-mêmes experts ou déjà eux-mêmes intéressés. Et on en a beaucoup discuté et on trouvait ça trop dommage, en fait, de ne pas avoir un podcast qui puisse donner des clés à quelqu'un qui se pose des questions mais qui n'est pas expert. Et c'est pour ça que Lucas disait tout à l'heure, ce n'est pas un podcast de journaliste. Il est journaliste, donc il y a un moment où on ne refait pas non plus son expérience, mais c'est un podcast qui est à hauteur d'auditeur. Et ça, c'est un truc hyper important pour toi. Peut-être que tu veux en parler.
Ouais, cette hauteur-là, elle m'importe énormément. Je crois que depuis que je suis à l'école, en fait, et j'ai toujours voulu faire cette espèce de journalisme-là, de journalisme concret. Enfin bon, c'est un peu du bullshit quand ça sort de ma bouche, mais c'est vrai. Enfin, j'ai toujours voulu donner des clés, donner des solutions.
Journaliste de solutions, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un truc utile, en fait.
Ouais, voilà. Quelque chose d'utile. Et là, effectivement, je trouvais que c'était la bonne façon d'aborder ça. On trouvait que c'était la bonne façon d'aborder cette question. D'autant qu'effectivement, il y a beaucoup d'interviews. Et en fait, les interviews, on va les écouter quand on s'y connaît déjà. Mais quand on s'y connaît, une transition écologique, ben, en fait, on sait ce que c'est. On sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut arrêter la viande, ou du moins réduire, qu'il ne faut pas prendre l'avion, etc. On connaît. Donc en fait, moi, ma plus-value, elle est pour des gens qui ne sont pas climato-sceptiques, qui ne se disent pas ouais, « l'environnement, je m'en bats les couilles. De toute façon, j'ai pris l'avion 8 fois et il n'y a pas fait plus chaud. » Des gens que ça peut interpeller, qui peuvent être intéressés, qui peuvent être émus quand il y a des catastrophes, etc., mais qui n'ont pas forcément fait la démarche parce que ça peut être compliqué. Parce que c'est compliqué l'écologie, en fait. Rien que là, sur le pitch du podcast, on a réfléchi, mais pendant des heures, comment est-ce qu'on pitch un podcast qui parle de tonnes de CO2, de COP21,
sans faire
d'accord
peur.
De Paris, enfin, non mais même oui, sans être chiant.
Ouais. En étant accessible,
avant de faire peur
et culpabilisant non plus, je trouve qu'il est pas culpabilisant, ce podcast, et c'est important,
c'est aussi ça fait aussi partie de la volonté de Lucas et que je suis complètement, de faire un truc qui donne des clés, pas des leçons, parce que l'écologie, ça fait hyper peur et on a un peu l'impression, enfin moi en tout cas j'ai un peu l'impression que quand j'en entends parler, c'est soit des discours hyper catastrophiques et ou scientifiques que j'ai pas du tout envie d'entendre et qui me motive pas trop à faire quelque chose, soit des trucs en mode mais non, ça va aller, la technologie va nous sauver. Enfin voilà, on se retrouvait un peu nulle part dans ce qu'on entend. En tout cas, moi je me retrouvais dans pas grand chose.
Moi je me retrouve pas effectivement dans ceux qui prônent la technologie.
Voilà.
Je me retrouve plus dans les premiers qui disent qu'on est foutus. mais il faut réussir en fait. Enfin, moi à mon sens, je trouve que ce qui pousse à l'action, en tout cas, moi, ce qui m'a amené à l'action, c'est la pédagogie. C'était de comprendre. Je ne connaissais rien, j'ai compris, et du coup, je suis passé à l'action. Et bien, en fait, j'essaie exactement de faire pareil. C'est clair que je ne vais pas dire on va tous crever dans 30 ans d'une canicule, parce qu'en fait, on ne m'écoute plus. À partir de là, c'est fini. Voilà, là, c'est alarmiste, on passe à autre chose. Même si je le pense, mais ce n'est pas grave. mais voilà, j'essaie de donner les bonnes clés, etc., pour aussi, en fait, amener à l'action.
Quand on market un podcast, vous le disiez, vous avez passé du temps sur le pitch. Je sais qu'il y a eu toute une pétition, c'était quoi l'année dernière ? Je suis pas sûre de moi justement, parce qu'il n'y a pas de catégorie en fait podcast dans l'écologie. Mm-hmm. J'ai pas fait gaffe, il est catégorisé dans quoi Super Green Me ?
Ça doit être en culture et société, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Ouais.
La catégorie fourre-tout.
Ouais.
C'est ça. Ou du coup, il y a
mais
beaucoup,
c'est une question société en soi. Donc,
c'est vrai. Presque tout est une question de société, si on va parler.
Oui.
Du coup, vous l'avez sorti en plein été ou au début
15 juin.
Au tout début de l'été, juste avant l'été, ok,
juste avant l'été.
On est précis. c'est audacieux, finalement, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en plein été. Est-ce que c'était aussi justement une opportunité d'aller se mettre dans les oreilles, de prendre un créneau qui n'était peut-être pas pris auprès de cette audience généralisée, qui est peut-être un petit peu plus de temps pendant l'été ? Comment est-ce que vous avez réfléchi tout ça ?
Alors là, c'est un compromis, justement.
Ah ouais ?
Tu t'intéresses à la relation entre l'auteur et la productrice, et ben là, c'est un compromis énorme. C'est-à-dire que moi, je voulais le sortir le plus vite possible. Parce que bah justement, en fait, il avait germé dans mon esprit pendant tellement de temps. Ça faisait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans en fait, que j'ai Super Green Me en moi. Je voulais que ça sorte. Je voulais accoucher. Je voulais, voilà, il fallait qu'il soit diffusé. Et de l'autre côté, il y a la productrice, beaucoup plus rationnelle, qui te dit, mais non, mais en fait, tu es indé. Tu as un travail. Tu t'en sors pas. Donc, tu vas faire le plus d'épisodes avant de le sortir. Et donc voilà, c'est cette lutte entre les deux où, selon elle, il fallait qu'on attende d'avoir fait en fait toute la saison 1, d'avoir tout tourné, tout enregistré, tout monté, et moi qui voulais le sortir absolument tout de suite là maintenant, et il s'est avéré que c'était le 15 juin. Et donc ce compromis a été aussi conseillé par les équipes d'Acast et par Cédric Bégoc en particulier, qui nous a fait remarquer à juste titre que à peu près en avril-mai, il se passait quelque chose en France, une élection présidentielle, et que l'écologie, même s'il n'y a pas de catégorie sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça prend quand même une place assez importante, même si, bon, il s'avère que là, ça a pris une place absolument ridicule dans cette campagne présidentielle. Mais bon, voilà, ça pouvait être vu comme quelque chose de politique et ça aurait pu passer un peu sous les radars. Donc ils nous ont conseillé d'attendre, donc j'ai fait un compromis également là-dessus, mais voilà, je pouvais pas attendre beaucoup plus longtemps et il a fallu que ça sorte le 15 juin.
C'était un pari de le sortir pendant l'été parce qu'on était aussi conscient que c'est une période où certes il y a moins de contenu mais il y a aussi moins d'écoute pour plein de podcasts et de podcasteurs, mais on s'est dit on va la tenter, il y aura moins de nouveautés, de sorties à ce moment-là, et peut-être que pour un podcast indépendant qui n'a pas une boîte de prod derrière pour faire un gros plan média, ce sera plus facile de naître à ce moment-là. Et il se trouve que, la nature étant blagueuse, au moment où le podcast est sorti, il a commencé à y avoir une canicule. Et en fait, on s'est dit, alors c'est horrible évidemment qu'il y ait une canicule, mais en même temps, ça va aussi peut-être pousser les gens à se poser la question de l'écologie. Est-ce que je pars en vacances, je prends l'avion, machin ? Et donc, je pense que le podcast est sorti au bon moment pour qu'il rencontre aussi un public en dehors de notre cercle à nous, quoi.
Et justement, alors quelle a été la réception ? Moi, je peux vous dire, j'ai commencé à enregistrer la saison 3 de Génération Podcast et quasiment tout le monde, en fait, m'a parlé de Super Green Me dans les podcasts qu'ils ont découverts cet été. Et ils m'ont parlé de l'impact que ça a eu sur eux. Donc, je tiens quand même à partager parce que c'est plutôt cool.
Yes.
mais donc, quelle est la réception que vous avez pu observer ? Et je ne sais pas si quel est l'impact, en tout cas, que vous espériez avoir. Est-ce que c'est... J'aimerais bien aussi mettre cet impact en relation avec l'échelle. À quelle échelle, en fait, est-ce que vous espérez pouvoir toucher, pouvoir changer les choses ?
Ça fait très faux ce que je veux dire, mais en fait, je m'attendais absolument à rien. Enfin, en fait, c'est un podcast indépendant sur l'écologie. Je m'attendais à absolument avoir zéro impact. Il faut être très, très franc. Et si mes parents m'écoutaient, c'était déjà beau. D'autant qu'ils ne sont pas du tout éco... Ils ne sont pas forcément éco-réceptifs. Ils ont écouté. Et en vrai, j'ai beaucoup d'écho. Et quand tu me demandais là, justement le parallèle ou la différence entre Y'a le feu au lac et Super Green Me, bah, là-dessus, c'est énorme. C'est absolument énorme parce qu'il y a le faux lac. Tout le monde savait que je le faisais dans mon entourage, mais alors tout le monde s'en battait, mais royalement. Voilà. Et là, pour le coup, tout le monde m'en parle. Mais littéralement, tout le monde m'en parle. Vraiment.
Mais là, c'est ta transition aussi. Est-ce que c'est justement l'incarnation, tu penses,
qui
accroche les gens ?
C'est l'incarnation, effectivement, qui accroche les gens. Et c'est, je pense, ça qui fonctionne, effectivement, dans ce format. Et parce qu'en fait, certes, c'est ma transition, mais on s'identifie en fait assez bien. Parce qu'un mec qui n'en a rien à foutre de l'écologie, ça parle à déjà pas mal de gens. Si on change le genre et qu'on dit une personne qui n'en a rien à foutre de l'écologie, là, ça parle à 99% de la population. Donc ouais, on m'en parle beaucoup. Donc déjà, effectivement, mes parents, ma famille, mes amis. Et je suis vraiment... Franchement, je suis assez scotché. moi, m'en parle quasiment toutes les... Enfin, à chaque fois que je les vois, ils m'en parlent.
Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait une soirée ou un dîner sans que ça commence par « j'ai écouté le dernier épisode de Super Green Me » et « commentaire, commentaire, commentaire », quoi.
Et ça s'excuse soit de manger de la viande, soit d'avoir un truc en plastique, enfin...
Mais c'est vachement bien, du coup, parce que c'est générateur de conversation. C'est peut-être ça, l'impact que tu... Enfin, oui, à terme, on aimerait que tout le monde se lance dans une transition, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est que les gens y réfléchissent, quoi, qu'ils y soient immunisés, si on peut dire.
Complètement. Franchement, ça, c'est en vrai ma plus grande réussite, au-delà de tout, tu vois, des retombées presse, des mises en avant par les plateformes, des audiences, etc. De voir que concrètement, ça a un impact et que notre travail a pu éviter des tonnes de CO2. En fait, c'est aussi concret que ça. Enfin, c'est dingue de se dire ça. Et c'est trop bien. Donc, effectivement, c'est générateur de conversation, mais c'est surtout générateur de réflexion et assez profonde, pour le coup. Je suis vraiment super satisfait. Et là, je commence un petit peu, de plus en plus, à avoir des anonymes qui m'écrivent sur Instagram, notamment. Et c'est top. Là, il y a une jeune fille de 17 ans qui m'a envoyé un vocal hier ou avant-hier, en me disant, en fait, j'ai 17 ans, tout le monde se fout un peu de ma gueule, et en fait, j'ai écouté ton podcast, et en fait, c'est trop bien, j'arrive à m'accrocher. Enfin, c'est dingue de voir l'effet que ça peut avoir. La réception, elle est plus mitigée, parce que c'est quelque chose d'intime, et c'est ma transition à moi, et donc, du coup, c'est des vrais moments de ma vie qui sont diffusés. Il n'y a rien qui est scripté, c'est ma vraie maman que les auditeurs et les auditrices entendent, c'est ma vraie copine, c'est mon vrai papa, c'est mon vrai beau-père, etc. Et donc du coup, moi j'ai l'habitude de m'entendre, et je suis d'un naturel assez flegmatique. Il y a relativement peu de choses qui m'atteignent, donc quand on me demande ce que ça me fait de dévoiler ma vie comme ça, franchement ça ne me fait pas grand-chose, vraiment. Mais du coup je ne me rends pas aussi forcément compte que ça peut faire quelque chose en fait aux autres.
Dans ta famille, tu veux dire, dans ton entourage, dans tes proches?
Ouais. Et je sais que ma mère, par exemple, a super mal vécu l'épisode 2, dans lequel elle, alors que absolument tout le
c'est
monde
quand
a
tu
adoré
lui
cet épisode.
Un nom,
quand, je l'ai, quand je l'appelle, ouais. Quand
tu
j'appelle ma mère,
ouais.
Et que, donc j'appelle ma mère dans l'épisode 2 de Super Green Me, pour lui annoncer que je fais ma transition. En tout cas, que je me lance un défi, etc. Et j'ai enregistré cet appel. Je ne lui ai pas dit qu'elle était enregistrée, je lui ai dit qu'après.
Oh c'est bof ça quand même.
Non, parce que si elle m'avait dit non, j'aurais pas diffusé. Mais en fait, je voulais pas la prévenir en amont parce qu'en fait, elle aurait complètement switché, elle aurait parlé avec une voix de BFM TV. Enfin, elle se serait formatée, je voulais pas.
Ouais.
Je voulais que ce soit ma mère qu'on entende. Que ce soit pas une personne qui téléguide un peu ses phrases. Je veux que ce soit très, très vrai aussi.
Très spontané.
Ouais, voilà, je veux que ce soit spontané. Et du coup, par exemple, ça, elle a un peu mal vécu. Mais voilà, mais malgré ça, elle ne s'est pas réécoutée. Et en fait, elle n'a jamais fait de... Elle n'a jamais bossé dans le son, etc. Donc en fait, elle n'entend jamais sa voix. Et d'entendre...
C'est dur d'entendre sa voix au début.
Voilà,
peu
d'entendre
importe qu'on
sa voix...
Dise,
c'est ça. Non, mais voilà, donc d'entendre sa voix déjà de base, c'est compliqué. Quand en plus, c'est une discussion assez intime avec son fils, ça peut être aussi encore plus compliqué. Donc voilà, donc là... La réception a été très bonne pour les gens qui n'y sont pas. et les gens qui sont dans le podcast ont... Je ne dis pas qu'ils ont une mauvaise réception du podcast, mais en tout cas, ça leur fait un peu bizarre et ça a un peu potentiellement crispé un peu les gens.
Ouais, c'est dur de s'entendre. Et même si toutes les conversations étaient enregistrées, on n'a jamais caché le micro. Ça a toujours été le Zoom sur la table devant tout le monde. On explique que c'est enregistré et tout. Aussi entre le moment où on a enregistré et le moment où ça a été diffusé, il s'est passé...
Ils ont le temps d'oublier plein de choses aussi.
6 ou 8 mois, quoi. Donc en fait, tu te rappelles plus de ce que tu as raconté un peu bourré un dîner de Noël. Donc il y a ça aussi. Et en vrai, même moi qui suis journaliste, qui connais les règles, qui en plus réécoute avant diffusion, il y a des trucs que j'avais pas captés et où quand c'est sorti, notamment une conversation qu'on a tous les deux dans l'épisode 7, où il me demande si on veut faire d'autres gestes, est-ce qu'on va déménager et tout, et que je lui dis, écoute, je comprends, mais c'est un peu la flemme et tout. Et en fait, je dis beaucoup que j'ai la flemme dans la vie. Et il y a eu notamment un commentaire sur une plateforme en disant, Mathilde, elle a quand même beaucoup la flemme, et je l'ai hyper mal pris. Parce qu'en fait, j'étais là, mais attends, mais ça fait des mois que je bosse sur ce projet, on dévoile notre famille, notre vie et tout, et je sais que c'était pas méchant, mais
quand tu livres du perso, c'est dur.
Ouais, c'est plus du boulot en fait. En tout cas, c'est plus que du boulot. Donc c'est difficile je pense, autour de Lucas, pour pas mal de monde, de trouver sa place là-dedans. Sa posture, en tout cas.
Je fais un podcast, mais...
C'est quoi comme podcast ?
Alors là, c'est un nouveau podcast que je prépare. On continue à marcher ?
Ouais, vas-y. Ouais.
J'étais pas écolo à la base.
Oh, ok.
Et... merci. Et où, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, je devenais écolo contre mon gré. Et enfin, contre mon gré. J'avais pas réalisé que je devenais écolo, en tout cas. Et que j'avais ces considérations. Du coup, je me suis dit, bah, je vais devenir écolo. Je vais acter le fait que je deviens écolo. Et
C'était un gros mot pour toi avant ?
Un peu.
Ouais.
Ouais, un peu.
C'est dur, hein ?
Ouais.
C'est une grosse étiquette.
Non, mais de s'identifier comme je suis écolo et être catalogué comme ça, et bah, on prend conscience de « Ah, ok, en fait, c'est ce que je défends. »
Ouais, c'est ça. C'est un peu... ouais, j'avoue que j'ai un peu... Ouais, je méprisais un peu. Pour moi, c'était le cliché, etc. Mais, et donc, du coup, je fais ma transition écologique.
Ok.
J'ai commencé en novembre.
De quoi ?
Et tu la documentes.
Et je la documente, exactement.
Excellent.
Et en fait, là, je me suis lancé le défi sur 6 mois.
Ok.
De réduire le plus possible mon empreinte carbone.
Génial.
Pour essayer d'arriver aux 2 tonnes.
Yes.
Qu'on devrait atteindre en 2050.
Bien
en fait,
sûr.
Et je voulais voir en fait bah, à quoi ça ressemble. Enfin, des trucs très bêtes et concrets, mais à quoi ça ressemble, est-ce que c'est possible, etc.
Ouais.
Bon, et alors concrètement, Lucas et Mathilde, à quoi ça ressemble de bosser ensemble, de vivre cette transition écologique aussi ensemble ? Ça se passe comment ?
Enfin, on peut pas mentir, c'est pas simple. Pour moi, c'est plus simple parce que, comme je le disais, je suis d'une nature un peu flegmatique. Mais en fait, tout est encore une fois à faire de compromis, que ce soit entre.
On apprend en faisant aussi. Hein.
Oui, oui, complètement. Mais que ce soit entre l'auteur et la productrice ou entre le concubin et la concubine, tout est à faire de compromis. Et tu le disais un petit peu tout à l'heure, moi j'étais persuadé, mais intimement persuadé, que ça allait être ma transition écologique personnelle. Que c'était à moi, dans mon coin. Et que j'allais emmerder absolument personne. J'allais avoir mon petit micro et mes petits plats végés, et puis merci, bonsoir. Et en fait, pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout, du tout anticipé dans ce podcast. C'est que une transition écologique, et d'ailleurs, je le vois maintenant, en fait, avec tous les retours que j'ai, des gens qui s'interrogent, qui réfléchissent, etc. Une transition écologique, elle est jamais personnelle. Elle peut pas être personnelle. Sauf si on est un ermite dans une grotte. Mais en fait, on côtoie forcément des gens, on va forcément en parler à des gens, ça va forcément les interpeller. Et d'autant plus quand on vit avec ces personnes. Donc c'est pas forcément évident. Il faut, il faut discuter, ce qui n'est pas mon fort, et faire des compromis, ce qui n'est pas mon fort aussi. mais voilà, on apprend en faisant, et puis... Et puis voilà.
Il y a combien d'épisodes qui sont prévus dans Super Green Me ?
Et là est toute la question. On est encore en cours de production. Je vais reciter les équipes d'Acast, mais qui en fait, à la base, moi j'étais parti pour en fait documenter ces 6 mois. Je me suis dit, bah, en fait, je vais faire 6 mois de journal de bord, et puis ça sera fini. Et en fait, j'y prends goût, et en fait, les gens m'en parlent, les gens réfléchissent, et donc c'est stimulant. Et donc, si je ne documente que les 6 mois du défi, il y a 21 épisodes.
Ok.
Il y en aura peut-être plus. On verra.
Ok. Bon, le site te donne quand même une petite idée. On ne sait pas trop ce que tu vas faire après, mais on sait que tu vas peut-être faire quelque chose après. Quoi.
Mais même moi, je ne sais pas ce que je fais après. Hein. Donc vraiment, là, je ne mets pas du faux suspense. Je suis moi-même dans le suspense. Hein. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce qui arrive. Donc, mais en tout cas, la saison 1 fera 21 épisodes.
Bon, et du coup, je ne peux pas spoiler. Et puis moi-même, je ne connais pas la fin puisque c'est encore au cours de diffusion aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous demander où est-ce que vous en êtes.
Je refuse de répondre à cette question.
Alors, j'ai ma petite réponse toute faite. il faudra écouter Super Green Me.
Mais on ne fait que ça, on ne fait que ça, Lucas.
Mais non, mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé ma vie quand même.
C'est que l'expérience a changé ta vie et après, ce que tu en as fait avec le podcast a aussi changé beaucoup de choses. Bah, c'est aussi la première fois que tu fais un projet aussi perso, en fait, tu vois, à la fois dans ta vie personnelle et dans ta vie pro. Lucas, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de lui. Et du coup, quand on a eu l'idée de Super Green Me, et c'est ce que je lui dis dans la discussion qu'on a tous les deux dans le podcast, et je dis, moi, je pensais que tu le ferais jamais, en fait, parce que parler de lui, c'est pas quelque chose qui est naturel pour Lucas.
Et en fait, j'ai été déjà très surprise. Et puis surtout, j'ai vu qu'en en fait, il ne parle pas de lui pour parler de lui, il parle de lui pour aller parler aux autres. Et que je pense que dans cette forme de narration et d'engagement, il a trouvé un truc de sens, en fait, très personnel. Et qui, peu importe ce qui advient après cette première saison de Super Green Me, va perdurer d'une façon ou d'une autre, quoi.
Et toi, Mathilde, t'avais pas fait de production indépendante avant ça ?
Non, j'avais pas fait de production indépendante avec ça, j'avais pas fait de production du tout. Après, il se trouve que je côtoie beaucoup de gens du milieu du podcast, donc je sais un petit peu comment ça se passe. Que Lucas lui-même avait déjà fait de la production, donc que je l'avais vu travailler, que tous les jours je travaille à côté de gens qui font de la production, donc je n'avais pas mis les mains dans le cambouis, mais je savais un peu comment ça se passait. Et puis, de toute façon, c'est un truc un peu particulier parce que à la fois, je suis la productrice de Lucas, je suis la copine de Lucas. Je suis un personnage du podcast, donc il y a un espèce de gloubi-boulga un peu bizarre. Et en gros, mon rôle de productrice, c'est à la fois de cadrer la production en disant « on va faire ça à telle date, à tel moment, ça serait bien que tu aies écrit tel script pour tel jour, machin ». Et puis avoir une deuxième oreille ou une deuxième paire d'yeux pour relire les scripts, lui dire « ah, attention, ça c'est un petit peu redondant » ou « alors, ah, ça c'est super intéressant, est-ce que tu peux développer un peu ?» pour avoir un petit peu de recul, un regard extérieur en fait, qui n'est pas complètement extérieur, mais qui ne soit pas lui.
Et alors, est-ce que tu y as pris goût à ce nouveau rôle ?
Ouais, carrément.
C'est vrai ?
Ouais. Non, franchement, c'est hyper chouette à faire. Après, là, encore une fois, c'est un projet particulier parce que c'est un projet qu'on fait en couple à la maison le soir, la nuit et le week-end. Mais ouais, c'est hyper chouette. Et puis, je pense que ça correspond bien à ma personnalité aussi. J'aime bien quand c'est organisé, j'aime bien aider à développer des idées. Je pense qu'il y a des gens qui sont très bons pour mettre en œuvre les choses et il y a des gens qui sont très bons pour encadrer et porter un peu les autres. Et moi, je pense que je suis bien meilleure pour porter que pour faire. Donc ouais, carrément, ça, j'aime beaucoup faire ça.
Et c'est pas les seules, vos seules aventures podcastiques, puisque si je me souviens bien, Mathilde, quand tu étais passée dans Génération Podcast, tu m'avais parlé...
Je t'avais donné l'exclu de Sans Algo.
Ah oui, tu m'avais donné l'exclu de Sans Algo, mais j'allais parler de vous deux, en fait, de Cerno. Vous faites partie des rares personnes que je connais qui écoutent des podcasts à deux.
Oui.
Oui, avant-hier.
Pas plus tard qu'avant-hier, on s'est fait une petite session Cerno tous les deux.
C'est quoi vos derniers binges de podcast à chacun ? Ok,
je
Lucas, c'est quoi tes
derniers ?
Enfin, le dernier truc que tu n'as pas réussi à poser, quoi.
Qu'est-ce que je me suis refait ? Alors, il faut savoir que moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je fais du sport. Mm-hmm. Et je fais beaucoup moins de sport en ce moment. donc, j'écoute beaucoup moins de podcasts. Non, le dernier, c'est le Canon sur la tempe, si je ne dis pas de bêtises. Le Canon sur la tempe, c'est une enquête d'Alexandre Moniol. C'est un podcast de nouvelles écoutes. Et lui aussi, il a un raisonnement un peu personnel. Là, on est sur du fait divers. Donc, effectivement, comme tu le dis, on écoute Cerno ensemble. On a un tropisme fait divers qui est assez marqué dans cette maison. et donc, du coup, en fait, il revient parce que lui, il est natif de Béziers, si je ne dis pas de bêtises. Et à Béziers, il y a eu un suicide, meurtre, en tout cas, enfin, il y a eu un décès un peu chelou d'un rugbyman Biterrois, tout à fait, d'un rugbyman Biterrois. Et du coup, il essaie un peu de remonter le fil et de faire son enquête à lui pour voir ce qui s'est passé ou pas.
D'accord.
Et voilà ce que j'ai bingé récemment.
Mathilde, est-ce qu'on a le droit de te demander et de ne pas attendre la fin du mois pour te demander au moins, je sais pas, un de tes derniers binges ?
On a le droit de me demander. Je vais séparer les binges pour le travail des binges perso et du coup, je vais te parler de binges perso. J'ai pris une petite semaine de vacances pendant laquelle j'ai pas mal conduit à l'étranger avec un ami. Et du coup, on a bingé la série Mes années boom d'Adila Benetjaizou, qui était une série des Pieds sur Terre, où elle raconte que son père est mort quand elle était bébé en Algérie, qu'il y a un peu un loup autour des circonstances de sa mort, et donc elle va, elle enquête en fait sur la mort de son père. Et j'aime bien ce que fait Adila Benedjaizou parce que je trouve qu'elle a une écriture hyper fun. Elle fait plein de blagues, elle se tourne elle-même en dérision. C'est pas une radio sérieuse, surplombante. Il y a un truc très podcast, justement, dans ce qu'elle fait. Et je crois que c'est une série de 2018 et c'est Julien Cernobori qui me l'a recommandé quand je l'ai reçue dans Sans Algo. Et j'ai dit trop bien, une série que je connais pas, donc je me suis jetée dessus. Donc ça, c'était vraiment super. Il y a 10 épisodes et 3 bonus un peu après.
Et c'est sur le flux des Pieds sur Terre.
C'est sur le flux des Pieds sur Terre, mais sur l'appli Radio France, si on tape Mes années boom, il y a aussi un petit, un petit flux à part, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a eu des très beaux épisodes, des histoires qui m'ont mis limite les larmes aux yeux. Donc ça, c'est le premier binge. Deuxième binge, qui est du coup un petit peu plus récent, qui doit dater d'il y a 10 jours, c'est toujours sur France Culture, la grande traversée dédiée à Lee Miller par Judith Pérignon, je crois. Lee Miller que je connaissais pas du tout, j'avais déjà entendu ce nom mais ça me disait rien, et en fait c'est une femme qui était surtout connue pour avoir été une muse d'artiste, mannequin, une espèce de blondeur incandescente trop belle, et en fait c'était surtout une reporter de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale mais pour Vogue. Et elle est allée notamment photographier les camps à la Libération et tout, les camps de concentration, sauf que elle le racontait pour Vogue. Et donc, le destin de cette femme est évidemment passionnant. Et surtout, j'ai trouvé ça trop chouette, en fait, de montrer qu'une femme pouvait faire un journalisme un peu différent en temps de guerre pour un magazine féminin et quand même parler de sujets plus que sérieux.
Ouais,
hyper difficile. Et puis, il y a aussi plusieurs épisodes sur comment le fait de, elle, avoir assister à la libération des camps de concentration a impacté sa vie perso, sa vie de femme, sa vie de mère, et comment c'est compliqué de dire je t'aime à ton fils quand t'as vu des charniers d'enfants morts, quoi. Donc c'est pas hyper feel good, mais franchement elle est trop chouette. Et je termine avec un petit truc feel good quand même, la chamade de Samia Basile qu'elle commence à diffuser là, qui est un podcast pareil indé qu'elle fait toute seule un peu avec ses potes, un podcast un peu gossip et un peu amour, c'est-à-dire qu'elle raconte à ses invités des histoires d'amour ou de couple qu'on lui a elle-même raconté, et ensemble ils débattent pour savoir ce que chacun pense de cette histoire. Est-ce que c'est lui qui a raison? Est-ce que c'est elle qui a raison? C'est hyper léger, et en fait moi j'écoute ça en cuisinant et c'est chouette. Voilà, c'est des épisodes de 45-50 minutes et je trouve ça très sympa.
Et si vous voulez en savoir plus sur Samia, vous pouvez remonter un tout petit peu votre fil de podcast, puisque Je suis très mauvaise actrice, j'allais dire, nous avons sorti un épisode au mois de septembre, enfin voilà, donc, bref, dans quelques semaines, il y a un épisode qui sortira avec Samia, où justement elle nous parle de la chamane ainsi que de son autre nouveau podcast. Qui est-ce que vous aimeriez entendre dans Génération Podcast ?
Moi, j'aimerais bien entendre un humoriste canadien qui s'appelle François Bellefeuille et qui a fait un podcast qui s'appelle 3.7 Planète ou 2.7. 3.7 Planète pour Radio-Canada. En fait, je l'ai écouté ce podcast parce que quand j'ai parlé de Super Green Me avant que ça sorte à un ami, il me dit: ah bah ça existe déjà au Canada. Je fais quoi? Pardon? Comment ça? Ah non, me dis pas ça, putain. Et donc, du coup, j'ai écouté 3.7 Planète. Et alors, c'est pas exactement du Super Green Me, mais en gros, c'est un humoriste, donc François Bellefeuille, qui incarne son podcast. Parce qu'en fait, lui, tout le pitch de départ, c'est qu'il veut faire un spectacle d'humour sur l'écologie.
Je m'appelle François Bellefeuille, je suis un humoriste. Peut-être que t'as déjà entendu parler de moi. J'ai les cheveux soyeux. Je parle toujours doucement.
Ah, y en a sont gênés de dire Tinder, imagine Kijiji! Pendant 2 ans, j'étais dans section à donner!
En ce moment, je suis en tournée avec mon deuxième One Man Show. qui fonctionne très bien, qui est très drôle. J'ai gagné plein de trophées avec.
Vous avez les mains pleines, oui. Et pour trois raisons différentes, oui. Évidemment. J'ai parlé d'Olivier de l'année, ça, oui. C'est le coup de cœur du public.
Oui, en ce moment, je commence aussi à faire un petit peu d'anglais sur scène, juste pour me rendre ça vraiment difficile.
I know it doesn't seem like it, but I used to be a veterinarian. It's not the same as a doctor, but in theory, if somebody here has a stroke, I can help them. I can go to their home, take care of the cats.
Là, je sais, il y en a qui se disent, d'après moi, il a copié quelqu'un. Ben, j'ai déjà entendu ça en français, cette gag-là. Ben oui, ça vient de moi, c'est mon 30 minutes Netflix, humoriste du monde.
Je le sais, c'est pas médecin. Mais en théorie, s'il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque ici ce soir, je peux l'aider. Je peux aller chez lui puis m'occuper de ses chats.
Les deux enfants. Et maintenant, je me préoccupe de l'environnement.
Oui.
Ça vient avec avoir des enfants. T'es aimes tellement que t'aimerais ça qu'il y ait un futur. Et je sais pas, on dirait que je suis jamais capable de me rendre la vie facile. Tout le temps que ça soit un petit peu difficile, souffrant. Alors j'ai décidé de parler d'environnement sur scène. Juste pour sentir vraiment que je suis vivant.
Hmm. Et il cherche comment est-ce qu'on peut faire rigoler sur l'écologie. Alors qu'à la fin, on va tous crever dans notre souffrance.
Mais ça suffit, et... Lucas.
Et il veut, non mais voilà, et il veut essayer de le raconter avec humour, de faire rire les gens. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement okay. Bien, c'est super bien réalisé. Donc j'aimerais bien entendre François Bellefeuille.
Ouais, c'est compliqué, il y a plein de gens hyper intéressants, hyper talentueux. Et du coup, je vais te donner plutôt le nom d'un... Je vais faire une pirouette et je vais te donner le nom d'un podcast que j'adore. Et je sais même pas, je connais pas le nom de la personne qui l'a fait. Donc, je te laisserai faire des recherches, Anne-Fleur, je te donne un peu de travail. C'est Everything is Alive, le podcast de Radiotopia.
J'ai découvert grâce à toi, d'ailleurs.
Ah ouais, mais que vraiment... mais en plus, j'en ai réécouté. Il y avait des épisodes que j'avais pas écouté. On en a écouté ensemble en vacances.
Génial.
Dans la voiture. Et en fait, je trouve cette idée, donc il y a une fiction qui donne la parole à des objets qui sont incarnés par des comédiens qui improvisent face à un intervieweur qui est toujours le même. Et je trouve
c'est
ça
brillant.
Tellement malin, tellement bien fait, tellement poétique, en même temps pas cucu. Enfin, je trouve ce podcast tellement incroyable et j'ai envie que tout le monde parle anglais pour l'écouter, que j'aimerais bien savoir comment un matin... Ouais, c'est ça, comment un matin tu te réveilles en disant en fait je vais interviewer mon marqueur.
Oui, c'est ça, les deux marqueurs, là, il est à mourir de rire celui-ci.
Hi, I'm Ed, I'm a Sharpie cap.
I'm Tammy, I am the barrel of the Sharpie.
The part that writes.
Yeah.
And you all, in case it's not clear, you belong together?
We are together.
We
are
together. We're married.
We're a married couple.
And I could say we belong together.
No, we do belong together. I mean, we literally were created to be together, and we ended up getting married. Not all Cap and Barrel are married, but we did get married and married quick, and it has been great.
But it's not like, I mean... There's a big bin of caps and a big bin of barrels.
And imagine how lucky we must be to...
Absolutely, yeah. But we weren't, like, made to... I mean, we made ourselves be together. We made it okay.
Oui, j'aimerais bien savoir comment ils ont eu l'idée et surtout, comment t'arrives à vendre ça, quoi, à une boîte de prod en disant, si, on va faire de la fiction en impro... Où on interview des objets, c'est un peu
c'est
en 2017 en plus, je crois. Donc voilà, si tu arrives à les choper, je repartagerai ton épisode tous les jours pendant une semaine.
Tous les jours, ah ouais, carrément. Eh bien écoute, au boulot.
C'est ça.
Mathilde, Lucas, un grand merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Bravo pour votre travail. Si vous avez un petit mot de fin, c'est le moment.
Du coup, on voudrait aussi remercier notamment Kino Yolo qui nous a fait l'illustration de la jaquette.
S'il m'entend, il va peut-être me détester. Mais bon, en même temps, avec Scaltriti, on me l'a écorché tellement de fois que merde, j'ai le droit d'écorcher un nom de famille. Il s'appelle Sinclair Riggenbach. Voilà, mais c'est un compositeur que j'aime beaucoup et qui a composé la musique originale de Super Grenier.
Et puis aussi, un petit merci à Victor Benamou qui nous a filé un coup de main sur les mix. À nos familles, à nos amis qui ont dit oui pour être enregistrés, pour qu'on passe beaucoup de temps à ça et qui nous soutiennent. qui nous font des retours sur leurs écoutes et tout, c'est hyper précieux. Et qui l'écoutent aussi, qui le partagent. On a une vraie petite fanbase dans nos potes qui repartagent en story toutes les semaines, donc ça fait plaisir. Et puis bah, merci aussi aux autres gens qui écoutent, qui partagent et qui envoient des messages à Lucas. Je pense que ça fait partie de l'énergie qu'on a aussi à mettre dans ce projet. C'est plus facile de bosser dessus depuis qu'on a commencé à le diffuser, parce qu'on a des retours et que ça motive, quoi.
Et merci aux climato-sceptiques de ne pas me cyber-harceler encore. Ils ne sont toujours pas tombés sur Super Green Me, donc ça fait quand même très plaisir. Restez loin de ce podcast. Merci, bisous.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser mes remerciements à Mathilde Mélin ainsi qu'à Lucas Caltriti pour leur participation à ce podcast. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur un des podcasts que j'ai bingé tout l'été et j'espère que vous aussi. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram et LinkedIn surtout. Et comme vous le savez, j'essaye de me lancer sur Twitter, tant bien que mal, c'est très compliqué. Mais voilà, vous pouvez aussi venir en discuter par là-bas. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous. N'oubliez pas, Génération Podcast est un podcast indépendant. Partagez-le autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément à mettre en valeur ce travail. Sur ce, il est temps pour moi de vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et on vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Génération Podcast. En attendant, on compte sur vous pour en écouter plein des podcasts. Salut!
Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié, Joseph Bologne, ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.